Jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. C'est notre deuxième invité du Next 40 qui nous vient de Nantes, Frédéric de Gombert. Bonjour.
Bonjour Thomas.
Tu es le CEO d'Akeneo. Ensemble, on va parler de beaucoup de choses, hein, la marque, son histoire. On va parler d'une levée de fonds à 135 millions d'euros. On va parler de dragons à trois têtes. Et on va surtout parler de PIM, de logiciels open source et des modèles qui vont avec. Avant de se concentrer dans une deuxième partie, bah, sur ton parcours, je te propose de démarrer sur l'histoire d'Akeneo. Et pour nous plonger dans l'ambiance, je t'ai demandé de choisir une musique et tu as choisi Nomads Yakalelo. Donc ça, c'est l'ambiance quand ouais, on arrive le matin chez Akeneo.
Je pense qu'il faut que j'explique un peu. Parce
je
que
pense.
c'était une blague de ma femme et de mes amis quand on a démarré la boîte, parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce qu'Akeneo voulait dire. Ils ont dit, bon, dans tous les cas, tu pourras toujours trouver un jingle, tu feras Yakalelo, Yakalelo, les gens comprendront plus ou moins ce que c'est.
Et vous avez pris yakalelo.com au cas où quand même?
Mince. Je sais ce que je dois faire.
Il n'est pas trop tard. Bon, maintenant, j'imagine qu'Akeneo est rentré quand même dans les têtes, en tout cas, de vos prospects.
Je crois, oui.
J'espère.
On commence à avoir une marque. Ouais.
Ça vient d'où, du coup?
Akeneo, le mot Akeneo, en fait, ça vient du mot... Alors, la vraie histoire, hein, c'est que comme tous les entrepreneurs, quand on cherche un nom, on cherche d'abord quels sont les .com qui sont disponibles. Et donc on a cherché beaucoup, on cherchait quand même quelque chose qui représente plus ou moins le partage de la connaissance, le partage de la diffusion de la connaissance. Et en fait, la ken, c'est un vrai mot grec, qui est
c'est
la...
C'est aken ou ken?
C'est aken, A-K-E-N-E. Okay. Qui se dit à peu près dans toutes les langues Aken, ce qui était pratique aussi, qui est la petite graine de pas mal de plantes, dont le pissenlit. En fait, c'est la partie du pissenlit qui s'envole quand on souffle dessus.
Et qui va se propager.
Voilà, c'est le côté Larousse d'Akeneo.
Et le O pour
faire
stylé à l'époque.
Et le O, c'est pour faire start-up. Ouais. Exactement.
Akenayo, Akenia.
Des O, il y en a eu un paquet, ouais.
À 10 ans près, ouais, la fin aurait peut-être été différente, mais en tout cas, la racine... Ça aurait été la même. Alors, on va parler du business, un business open source.
Oui, absolument. Nous, le métier d'Akeneo, c'est d'aider des marques et des distributeurs à diffuser, à activer leurs produits sur l'ensemble de leurs canaux de vente. Donc, ça peut être aussi bien...
On parle de catalogue produit.
Le catalogue produit, vraiment. Ouais. Donc, on va gérer, en fait, on est la base de connaissances du catalogue produit d'une marque ou d'un distributeur. Donc on va gérer toutes les informations, que ce soit les photos, les descriptions, les spécifications, l'empreinte carbone, les dimensions, tout ce qui va permettre de construire une fiche produit sur un site e-commerce, sur un catalogue papier chez des revendeurs, bah, va être centralisé dans Akeneo.
Ça répond à quel enjeu?
Ça répond à un enjeu assez simple, c'est qu'en fait on a des marques et des distributeurs qui, il y a 10 ans, évoluaient majoritairement sur un seul canal de vente. Soit ils étaient en magasin, ils avaient leur réseau de magasins, soit ils faisaient un peu de magasin, un peu d'e-commerce, mais rarement très distribués. Et plus les canaux se sont multipliés, plus la nécessité d'avoir un endroit dans lequel on retrouve toute la donnée produit est devenue importante. Ça paraît, c'était un peu tout notre défi quand on a créé Akeneo, c'était
de faire comprendre
que ce truc-là n'existait pas. Parce que ça paraît une évidence quand on l'entend.
Je l'ai, mon catalogue produit,
dans un fichier Excel, quelque part, où vous pensez en avoir un bout. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte quand on a créé Akeneo, c'est que ces catalogues produits, en fait, ils sont éclatés en 1000 morceaux. Il y a des bouts d'informations un peu partout, soit dans le système d'information, soit dans la tête des équipes. Et donc, il n'y a jamais un endroit qui centralise toutes ces informations-là. Et quand on a besoin très vite de s'adapter, d'ouvrir des nouveaux canaux de vente en ligne, quand on a très vite besoin d'aller sur les réseaux sociaux, et ben on a besoin d'avoir tout au même endroit.
Pour projeter, à quel moment ça peut être douloureux de ne pas avoir un outil comme celui-là?
Je donnais l'exemple de notre tout premier client avec qui on a lancé Akeneo. Malheureusement, je n'ai pas le droit de donner son nom, mais on va imaginer une très grande marque de luxe française.
Ouais.
Quand on a commencé à travailler avec eux, à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle collection de produits, il se passait 6 mois pour que l'équipe e-commerce puisse mettre ce catalogue en ligne. Donc le site e-commerce de cette grande marque de luxe française avait systématiquement une saison de retard.
Ouais.
Sur les canaux de distribution physique.
Si c'est du prêt-à-porter, c'est d'autant plus embêtant.
C'est d'autant plus embêtant, surtout qu'ils sont sur des quantités de stock extrêmement faibles, c'est du luxe, donc c'était vraiment problématique. Et là où c'est devenu encore plus absurde, c'est quand à un moment on a monté les deux étages au siège de cette maison de luxe, on a rencontré deux autres personnes qui faisaient exactement le même métier que l'équipe Internet, à savoir essayer de consolider comme ils pouvaient toute cette information dans des fichiers Excel. Mais on a trouvé deux autres qui faisaient exactement la même chose pour le catalogue papier. Et comme les gens qui travaillent sur le catalogue papier ne sont pas du tout les mêmes équipes, le même département que l'équipe digitale, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas.
Ouais, ça faisait doublon, perte de temps.
Perte de temps, perte d'argent, puisqu'ils retravaillaient avec d'autres agences de traduction pour traduire dans les 16 langues. Ils refaisaient des photos, ils retravaillaient avec d'autres studios. Donc perte de temps, perte d'argent, et aussi source d'incohérence. Parfois, on trouvait des informations différentes en fonction qu'on regardait le catalogue papier, qu'on parlait à un vendeur ou qu'on était sur le site en ligne.
Tu disais que les canaux se sont multipliés. Aujourd'hui, ces catalogues produits, ces fiches produits plus précisément, les retrouvent où?
On va les retrouver sur les canaux traditionnels, et offline, donc le magasin, les points de vente, le catalogue papier. Mais même en ligne, ça s'est démultiplié. Il y a l'avènement des marketplaces qui est très présent. Il y a une autre figure d'une ex-garante qui n'est pas étrangère à ce phénomène-là, chez nos amis
tu
Miracle.
Tu peux les citer,
Et donc, le nombre de marketplaces explose. Donc, les marques doivent de plus en plus ne pas se contenter uniquement d'être sur leur propre site de vente en ligne, mais aussi d'aller sur les marketplaces.
Et qu'une modification de produit se fasse en temps réel, quels que soient les canaux, j'imagine.
Et avec des exigences de plus en plus fortes de la part des consommateurs. Parce qu'il y a, pendant longtemps, on disait un produit, c'est un nom, une description, un prix. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisque les consommateurs sont de plus en plus éduqués. Et donc, vont chercher des informations de plus en plus précises et on doit être capable de répondre à cette information. Je parlais tout à l'heure de l'empreinte carbone. C'est un sujet qui est de plus en plus important quand on vend des chaussures, quand on vend de la mode en ligne. D'être capable de dire, ce produit-là, il a telle empreinte carbone, ça nécessite de connaître sa composition. Ça nécessite de connaître son cycle de production. Et donc, toutes ces informations-là, il faut bien aller les chercher quelque part pour pouvoir donner cette information.
Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à la possibilité de contacter un autre user en direct ou un conseiller, peu importe le lieu où on va l'acheter?
Nous, on va donner cet accès à l'information à l'ensemble des équipes de nos clients. Donc, le service après-vente, le service avant-vente, tous ces utilisateurs-là vont pouvoir effectivement bénéficier de cette information enrichie.
Est-ce qu'à l'image d'un site internet qui aujourd'hui, la plupart, j'espère, sont responsives, cette fiche produit, pareil, s'adapte en fonction de l'espace disponible?
Absolument. Je donne un exemple très clair, en fait, très simple. La description d'un produit, selon qu'on la consulte sur un desktop, sur un PC ou sur son téléphone mobile, l'espace disponible, il est beaucoup moins important. Donc, on va faire des descriptions plus courtes. Donc, l'enjeu aussi d'un outil comme le nôtre, comme Akeneo, c'est de permettre d'adapter aussi le contenu et la manière dont on parle du produit en fonction du canal.
Et ça, c'est de l'humain ou tout s'automatise?
Il y a de plus en plus de choses qui s'automatisent. Maintenant, parler et créer l'histoire d'un produit, ça reste un métier. Donc nous, on va outiller ce métier-là.
Je ne contredirai pas.
Et c'est... En fait, nous, la conviction qu'on porte chez Akeneo, c'est de dire Sur les 20 dernières années, toutes ces marques et ces distributeurs ont investi considérablement pour savoir qui étaient leurs clients, où ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, à quel moment ils achètent. Et on a un peu oublié que le commerce, la base du commerce, c'était la rencontre d'un client et d'un produit. Et certes, on connaissait de plus en plus son client, mais on ne savait pas lui parler de notre produit. Et donc, nous, on vient apporter et combler ce manque de ces 20 dernières années.
Mais ce n'est pas l'un ou l'autre.
Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est le mariage des deux.
Je le disais en préambule, c'est de l'open source.
Oui.
Ça, quel impact sur l'approche business? J'imagine qu'on peut se poser beaucoup de questions en tant qu'entrepreneur quand on entend un modèle comme celui-ci. Il y en a plein, des exemples open source qui marchent très bien, mais sur le modèle en lui-même, est-ce que ça change quelque chose?
Oui, ça a changé pas mal de choses pour nous. Il y a pour moi deux éléments sur le plan purement business, et puis après il y a un truc plus éthique aussi
dans la vision
et pourquoi on veut pas faire un logiciel qui est une boîte noire, mais sur le plan purement business, je vois deux impacts très forts. Le premier, c'est que quand on est open source, par définition, on va avoir une communauté qui va se créer autour de l'outil, qui est internationale. Donc on s'est retrouvé très, très rapidement avec des utilisateurs et des clients partout dans le monde. Et donc pour une start-up française, c'est un immense accélérateur, puisque ça nous permet très vite d'avoir des utilisateurs et une communauté globale et mondiale, ce qui est toujours un sujet difficile quand on est une start-up, et encore plus quand on est une start-up française, d'accélérer ce développement à l'international.
Je vais te laisser poursuivre sur le deuxième point, mais si c'est open source, ça veut dire que des concurrents pourraient reprendre des choses ou de fait, c'est impossible?
Ah non, bien sûr, ils peuvent reprendre. Voilà. C'est la nature même de l'open source, mais en fait, il ne faut pas voir ça comme une...
Je cherche un peu.
J'écoutais sur le chemin l'épisode de Xavier Niel qui disait qu'il était optimiste. Je suis très optimiste aussi. Donc moi, je vois la bouteille à moitié pleine. Effectivement, nos concurrents peuvent voir exactement notre code. C'est pas simplement ce qu'on fait, c'est qu'ils voient notre code et comment on le fait. Donc ils peuvent le prendre, ils peuvent le refaire. Mais ça nous encourage à toujours faire mieux, en fait.
C'est avec cette communauté de développeurs partout que vous arrivez à faire mieux.
Exactement. C'est que la force de l'open source, c'est pas le code en lui-même, c'est la communauté qui l'entoure et qui va vraiment le faire vivre, l'améliorer, l'enrichir. Et c'est ça la valeur d'une solution open source.
Et ça, il a fallu la créer, cette communauté, ou ça arrive tout seul
Non, ça arrive pas tout seul. C'est pas aussi magique qu'on peut le croire. Nous, on a fait le choix de l'open source parce qu'on s'est appuyé sur une communauté qui existait déjà, qui est la communauté d'un outil qui s'appelle Magento, qui est une grosse plateforme e-commerce qui a vraiment complètement balayé le monde du e-commerce dans les années 2007-2008 et qui a une très, très grosse communauté existante.
Et comment donc, on va hacker la communauté d'une autre
en travaillant sur le même stack technique, en allant à la rencontre de cette communauté. Nous, c'est de là dont on venait. Donc, on connaissait déjà les bonnes personnes et on venait compléter Magento, on venait compléter la solution par une solution qui apportait, qui comblait des trous dans ce que faisait Magento.
Et c'est-à-dire que de la même manière, il y a la communauté Magento qu'on va aller chercher, et c'est-à-dire qu'on targete d'abord les clients Magento.
On a complètement targeté les clients Magento en priorité, absolument. C'est comme ça qu'on a démarré. Ouais.
Je t'ai coupé tout à l'heure sur le deuxième point de l'open source.
Non, mais c'était exactement ça, c'était la communauté, en fait. Donc, tu as fait le pont. Je pense qu'il y a le développement international et le deuxième qui est effectivement cette communauté. Alors, cette communauté, elle a un intérêt, c'est qu'elle va permettre d'accélérer notre développement, en fait. Nous, société française, j'ai pas la... Surtout dans notre monde, le PIM, c'est un outil qui doit être connecté avec plein d'autres systèmes. Comme c'est une espèce de grosse base de données, j'ai besoin d'être connecté avec le plateforme e-commerce, le RP, la gestion des médias, tout ce qui va venir à un moment graviter autour de la donnée
et
produit.
Et donc, c'est autant de code à intégrer, de complexité.
Énormément d'intégration. Et moi, j'ai pas la prétention de savoir dire que je connais quels sont les ERP australiens ou japonais avec lesquels il va falloir venir s'intégrer. Avoir une communauté open source, eux, ils savent, parce qu'eux, ils sont chacun sur leur marché, ils sont chacun leur spécialité, donc ils vont venir spécialiser notre outil en venir développer ces intégrations qui nous manquent.
Il y a la culture open source qui fait que les développeurs embarquent, et on l'a bien vu là assez facilement. Mais néanmoins, ces développeurs, ils y trouvent d'autres intérêts, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont greffer des choses pour les vendre, ils sont associés à des développements qu'ils font et qui sont intégrés dans la solution. Ça marche comment pour eux?
Alors, il y a deux types de membres de la communauté. Il y a soit ceux qui travaillent pour un intégrateur, donc qui vont eux-mêmes après vivre de l'intégration d'Akeneo pour leurs clients.
Très clair.
Soit des gens qui vont effectivement venir commercialiser des modules au-dessus d'Akeneo. Des modules de traduction, par exemple, automatisés de contenu, ou des... Bon, vraiment, ils vont vendre des add-ons. On a des boîtes aujourd'hui qui ne vivent que de la commercialisation.
Donc c'est comme toute la communauté autour de WordPress.
Exactement, ouais. C'est le...
Avec des petits add-ons qui
plein d'add-ons, ouais.
surperforment et voire qui se revendent.
Qui se revendent beaucoup, ouais. Et nous, c'est super parce que ça nous permet de voir où sont les gros trous qu'on doit combler, vers où on doit avancer en priorité. Donc,
donc pas directement de lien financier entre la communauté et Akeneo. Ils s'y retrouvent par ailleurs.
Ouais.
On parle de la concurrence ?
On parle de la concurrence. Nous, quand on a démarré Akeneo, le principe de PIM, il est vieux comme le monde. C'est pas nous qui avons inventé le PIM. Mais cette notion de base de données centralisée, pendant longtemps, elle était réservée à une audience très technique, technologique. C'était une extension d'un ERP. Donc, c'était vraiment fait pour les gens de l'IT qui avaient besoin de structurer. C'était vraiment une vision base de données. C'était pas vraiment une vision outil métier de productivité. Je parlais de mon premier client tout à l'heure qui passait 6 mois à mettre en ligne une nouvelle collection. Nous, l'enjeu principal d'Akeneo, c'était de leur faire gagner du time to market. Donc, on les a fait passer de 6 mois à 2 mois, de 6 personnes à une personne et demie. C'est ça l'intérêt. Et donc ça ne fonctionne que si on a un outil qui est extrêmement simple à prendre en main, intuitif et qui est vraiment pensé pour les équipes métiers, pour les gens qui connaissent les produits et pas pour les gens de l'IT. Et donc la concurrence qui existait quand on a lancé Akeneo... C'était très technique. Souvent, moi je disais, le PIM, c'était le dernier bastion de l'enterprise software à l'ancienne. Quoi. C'était du Oracle, du IBM, du SAP. Donc, c'est des trucs pas très sexy, quoi. Pas très sexy, qui donnaient pas envie. Et nous, la conviction qu'on a eue depuis le début, c'était de se dire, si on fait pas quelque chose d'aussi simple qu'Excel... Les gens ne l'utiliseront pas, continueront à travailler sur leur fichier Excel à côté. Donc la concurrence, elle était solide, elle existe encore d'ailleurs.
Mais parce que tu me parlais des débuts, ce qui est ultra intéressant, ce qui va m'intéresser aussi, c'est aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui, l'environnement a pas mal évolué. Je pense qu'on a contribué à amener une nouvelle vague et justement à transformer
une nouvelle approche,
ce métier de la gestion de la donnée produit. Aujourd'hui, on a un grand concurrent américain à l'échelle globale. Et puis après, en fonction des pays, on va retrouver des plus petits acteurs dans chaque pays.
Il y a des questionnements sur l'acquisition de concurrents, éventuellement une cession.
Alors, acquisition de concurrents, non. Acquisition, oui, de concurrents, non.
OK.
En tout cas, ça ne fait pas partie de la stratégie aujourd'hui d'Akeneo. Je trouve que c'est toujours compliqué comme exercice. J'ai du mal à me projeter dans un exercice où on rachète un produit qu'on fait disparaître.
Oui, c'est un peu ça. En l'occurrence, c'est tech, donc c'est l'un ou l'autre.
Ouais. Ouais. Donc, non, pour l'instant, c'est pas un sujet.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet d'acquisition.
Il y a des projets d'acquisition, ça, on ne s'en cache pas, mais qui vont plutôt être des acquisitions d'outils qui vont être connexes et qui vont venir enrichir notre offre. Mais pas d'acquisition de concurrents.
Il n'y en a pas eu encore.
D'acquisition.
Oui.
On en a fait une en 2017. On a racheté une start-up israélienne qui justement utilisait l'intelligence artificielle pour faire de l'enrichissement automatique. Donc on parlait justement de comment on automatise toutes ces opérations d'adaptation du contenu. C'est ce qu'ils faisaient. Donc on a
souvent au micro... notamment sur notre podcast Cash Out, des entrepreneurs qui ont cédé. Et on voit les problématiques qui peuvent suivre une acquisition. Côté repreneur, du coup, c'est quoi la difficulté d'intégration?
Oh, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est toujours une question d'humain et d'intégration. On a racheté une boîte israélienne, on n'avait pas du tout de présence à Tel Aviv à cette époque-là. Donc il a fallu apprendre, il a fallu réintégrer une équipe qui était majoritairement tech. Hein, c'était une petite boîte, c'était 13 personnes, où il a fallu embarquer toute cette équipe qui avait déjà un projet entrepreneurial, qui était une start-up en soi, et la réintégrer dans un nouveau projet, dans une vision qui était parfois un peu différente. Donc ça a été le gros enjeu pour nous sur cette acquisition-là.
Vous avez levé, je le disais tout à l'heure, 135 millions d'euros, je crois, auprès de Summit Venture.
Oui, Summit Partner.
Plus Partech et Alven qui étaient déjà là et qui ont suivi. C'est notamment pour ces projets d'acquisition, j'imagine pas que.
C'est très majoritairement pour des projets d'acquisition. On n'avait pas besoin d'argent pour financer notre croissance organique. On se suffisait à nous-mêmes. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir accélérer le développement d'Akeneo par de la croissance externe. Il y a un petit bout qui continue à financer notre croissance aux US parce que c'est un marché qui est extrêmement important pour nous et sur lequel on n'a pas encore vraiment fini de se développer. Ça représente 20% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. On pense que ça doit à terme en faire beaucoup plus. On doit être beaucoup proche des 50% que des 20%. Donc on a encore un peu de chemin à faire sur ce marché-là. Mais le gros des fonds doit servir la croissance externe.
On a vu à ce micro Georges Lotigier de Veid, qui est parti aux États-Unis, qui nous a conté ses mésaventures avec un concurrent et donc la justice américaine. Quand on se lance, comme vous, sur ce nouveau marché, est-ce qu'on prévoit tout ça ou est-ce que finalement c'est après coup qu'on entend d'autres copains qui vivent certaines mésaventures, on se dit on va peut-être adapter deux trois choses.
Ouais, je pense qu'on a fait toutes les conneries qu'il faut pas faire et qu'on nous avait dit de pas faire et qu'on a fait quand même. Hein. Je pense que c'est
comme quoi même l'information ça suffit pas.
Non, l'information ça suffit pas. Je pense que c'est l'expérience qui. Mais oui, on est passé par toutes les étapes. Envoyer des Français aux États-Unis, ça marche pas.
Tu peux partager. Hein. Moi, je suis souvent preneur de ce qui ne marche pas pour comprendre.
Je pense qu'on est passé par toutes les étapes. Et après, c'est difficile de dire ça ne marche pas. Je pense qu'il y a des choses qui marchent jusqu'à un certain niveau.
À un certain moment.
Oui, et puis à un certain niveau, à un certain stade de la boîte. Et je pense que j'ai sous-estimé pas mal de choses. J'ai sous-estimé la différence culturelle de ce que ça voulait dire que se faire du business aux États-Unis. Parce que les États-Unis, on vit dans la culture américaine, donc on a l'impression qu'on la partage énormément. Mais en fait, sur le plan de vue, sur un plan business, c'est quand même le jour et la nuit.
À quel niveau
l'Europe. Sur la manière de vendre, la manière de marketer un produit, la manière d'embaucher des équipes, le découpage des tâches, c'est des trucs tout bêtes, mais... aux États-Unis, il faut embaucher des gens très spécialisés, c'est très taylorisé. Là où en Europe ou en France, on va avoir plutôt tendance à embaucher des gens très multicasquettes.
Couteau suisse.
Très couteau suisse, ça n'existe pas. Enfin, aux US, ça n'existe pas. Et c'est pas du tout un jugement de valeur. Les mecs sont excellents dans un domaine et il faut les mettre dans ce domaine-là pour vraiment qu'ils explosent. Et effectivement, quand ils explosent, ça va 5 fois plus vite que partout ailleurs.
Et une fois que t'as pris ça en compte, est-ce que ça a changé des choses en Europe pour marketer le produit, par exemple ?
Énormément. Par exemple, moi, toute mon équipe product marketing, je l'ai montée aux US. J'ai personne en France sur ces sujets-là, parce que je savais que je ne trouverais pas les bonnes compétences en France. Le métier du product marketing et du marketing dans le monde du logiciel en général, c'est des compétences qui sont encore assez nouvelles en Europe, qui sont déjà très bien établies et très, très bien documentées et processées aux US. Donc,
et de manière très concrète, ce gap, tu
un exemple, c'est pas un exemple, c'est un constat tout bête, c'est qu'on nous avait dit, vous allez voir, aux US, il va falloir vraiment expliquer la valeur que vous créez avec votre produit. Et c'est vrai que quand on arrive en tant qu'Européens sur le marché US, nous, on est des passionnés de produits, on adore notre produit, et donc on va parler de nos fonctionnalités. Le premier réflexe d'un entrepreneur français qui arrive sur le marché américain, c'est d'aller expliquer pourquoi son produit est meilleur, feature par feature, quoi. Regarde, nous, on fait ça et pas les autres,
Alors que les Américains ont une vision, changer le monde.
C'est ça. Il faut expliquer comment tu vas me faire gagner de l'argent.
Okay.
Si t'es en face de moi, je considère que ton produit, il est bon. Sinon, je ne te parle pas.
Donc, plutôt bosser les pain points.
Pain point, et oui. Quel est le problème que tu résous? Ouais. Start with a why. Dis-moi pourquoi ton produit va me faire gagner de l'argent et va me faire gagner du temps. Et c'est un exercice compliqué parce qu'avec notre culture européenne, on peut avoir tendance à croire que très vite, notre discours marketing se transforme en du bullshit, très corporate. Et faut, la vraie challenge, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux pour que ça fonctionne encore en Europe, parce qu'il faut malgré tout,
oui,
l'Europe, ça reste un gros marché. Donc, il y a toujours un exercice d'équilibriste pour...
Et ces spécialistes du product que vous avez aux États-Unis, ils savent s'adapter aussi aux...
Bah ça, c'est l'exercice de recrutement, justement. Okay. C'est de trouver les personnes qui vont être capables de s'adapter à un environnement multiculturel et donc de s'adapter à l'ensemble de leur marché et pas uniquement au marché local.
Si on reste sur l'international, il y a eu des plantages dans d'autres pays ou au contraire des réussites inexpliquées?
Des plantages, pas vraiment. Je pense que les États-Unis, je le dis, ont été et sont toujours un parcours. Je pense qu'on n'est pas... On n'est pas au bout de ce parcours-là. Réussite inexpliquée, je ne sais pas si inexpliquée, mais en tout cas, on a été très surpris par l'Allemagne, pour nous, qui est réputée comme étant un marché très compliqué pour des Français. Et comme d'habitude, je pense que ça se résume à des questions de people, quoi, à questions de gens. Et je pense qu'on a trouvé la bonne personne qui a su, pareil, infuser une vraie culture allemande, parce que, pareil, pour faire du business en Allemagne, bah, il faut être très allemand. Faut parler allemand, faut avoir des contrats de droit allemand, faut vraiment avoir l'air vraiment très très allemand. Et il a su insuffler ça tout en s'imprégnant de la culture de la boîte, et ce qui a fait que très vite l'Allemagne a décollé chez nous.
On parlait tout à l'heure de cette levée de fonds. Moi, j'ai une question de un de tes premiers investisseurs, un de TBA. Je te laisserai nous le présenter, mais je te propose d'abord de l'écouter, évidemment de lui répondre.
Vous avez un message.
Salut Fred, c'est Philippe. Écoute, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est de savoir si ta collection de disques de chanteurs de droite progresse bien. Et la deuxième, c'est de savoir si tu considères ce que tu considères comme des lignes rouges au niveau des vétos et de la place de tes VC dans le board. Est-ce qu'il y a des pertes de contrôle nécessaires mais acceptables au vu des enjeux de chacun? Voilà, à plus tard.
Waouh. Je sais pas laquelle des deux est la plus difficile. Hein. ouais, donc c'est une question de Philippe Humeau, qui est un ami, qui était un des premiers à croire en Akeneo, qui était un de nos business angels, qui est entrepreneur aussi.
Et qui savait dire Akeneo.
C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais. ceux qui vont tenir sur la durée. Les chanteurs de droite, c'est une vieille blague entre nous. J'avais dit qu'un jour, si je devais lancer un site e-commerce, je lancerais un site e-commerce de vente d'objets de collection de chanteurs de droite. C'est complètement idiot.
Mais bah, c'est le principe de niche, quoi.
C'est très, très niche. C'est très, très niche, mais je pense que Michel Sardou a encore une bonne base installée. Donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel.
Et alors, sur la place des VC au board.
Sur la place des VC au board. Ça, c'est une vraie question qu'on se repose à chaque fois qu'on fait rentrer des nouveaux investisseurs. Parce que je pense que c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé par les jeunes entrepreneurs, moi le premier. Quelle est l'importance du board et quelle est l'importance de savoir avec qui on se marie? Parce que faire entrer des investisseurs au capital, c'est un mariage, et c'est un mariage dont on ne peut pas divorcer. Donc il faut être très très conscient de qui on fait rentrer.
Ou dont on sait qu'on va divorcer à 10 ans ou 5 ans. Ou...
Voilà, c'est un mariage à durée déterminée, ouais. Mais dont on, sans interruption,
entre les deux possibles.
Ou alors ça se fait vraiment dans la douleur. Mais vraiment dans le douleur, il n'y a pas de divorce à l'amiable dans ces cas-là. Donc c'est vraiment important de connaître les gens qui nous entourent. J'avoue que moi, je n'ai pas toujours fait cet exercice-là, mais j'ai eu la chance, dans mes premiers investisseurs, d'avoir que des gens exceptionnels. J'ai eu Jérémy Usan de Alven, j'ai eu Reza de Partech, et en fait, je me suis rendu compte très vite à quel point c'était important d'avoir des gens de qualité avec qui on s'entendait non pas uniquement sur le business, mais sur la vision, sur les objectifs à long terme. Et sur la question du quels sont les droits, les vétos qu'on peut donner à un... Bah, naturellement, quand on fait rentrer un investisseur à son capital, bah oui, on accepte de donner une partie de la boîte et donc une partie d'un pouvoir auprès à ces investisseurs-là. Je saurais pas dire précisément où est-ce qu'est la ligne rouge. Je pense que tout dépend du stade d'avancement de la société. Mais je pense que, honnêtement, en demandant à Keno, ça fait 10 ans, on a fait 4 tours de table. On a eu plusieurs investisseurs autour de nous. La question de ces vétos, de cette ligne rouge, du niveau de contrôle, elle est finalement pas pertinente si on s'est assuré au départ qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision avec les investisseurs qui nous accompagnent.
Mais c'est-à-dire qu'on grave dans le marbre les sujets sur lesquels il peut y avoir veto ou pas veto, ou en fait c'est à l'exercice.
Ça, ça fait partie du pacte. Oui, bien sûr, il y a un pacte d'actionnaires qui est signé où il y a clairement des droits de veto, mais qui sont généralement extrêmement... Maintenant, c'est quand même assez balisé, c'est-à-dire que ça va être « je peux pas vendre la boîte sans leur aval, je peux pas toucher leurs actions sans leur aval ».
Ce qui est entendable.
Ce qui est entendable, je peux pas faire un certain niveau de dépenses sans leur aval. En gros, je peux pas aller m'acheter une maison aux Bahamas et puis partir, quoi. Donc, c'est des choses extrêmement basiques. Sur le pilotage au quotidien, ça reste le CEO qui fait le job. Et les investisseurs, quand ils investissent dans ta boîte, c'est qu'ils te donnent un mandat quand même. Donc, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'enjeux ou de sujets sur la question des vétos.
Il y a eu des coups de chaud.
Il y a toujours des coups de chaud. Mais souvent, les coups de chaud, c'est avec les mauvais. Et nous, dans l'histoire d'Akeneo, on n'a pas toujours été bien entourés. Et j'ai vu des boîtes vraiment se planter à cause de ça, à cause d'un mauvais entourage, de mauvais investisseurs. Donc, c'est vraiment...
Qui se traduisait par quoi?
Dans notre cas...
Sans nommer, hein.
Non, mais dans notre cas, c'est très simple. On fait notre série B avec Partech. Et une super levée, on crée beaucoup de valeur à ce moment-là pour nos actionnaires. La boîte va très bien à ce moment-là. Et on a un fonds existant au sein d'Akeneo qui bloque juste parce qu'on avait dit qu'il n'y aurait pas de secondaire sur ce tour-là. Donc on ne faisait pas sortir.
Tu peux expliquer ?
Oui. Que tout l'argent qui allait rentrer dans Akeneo à l'occasion de ce tour-là irait dans le compte en banque d'Akeneo pour aider à la croissance d'Akeneo et que l'argent ne servirait pas à racheter
une partie des parts,
des existants. Ce qui était clair dès le départ quand on avait lancé ce tour-là, et la semaine avant le closing, ils nous ont mis dos au mur, ils nous ont dit « nous, on ne signera pas ».
Comment on se tire de cette histoire ?
On s'en tire aussi bien qu'on peut, je pense que ça fait partie des... Maintenant, j'en parle beaucoup plus sereinement, je n'ai pas toujours été aussi serein sur ce sujet-là. Je pense qu'on a été très bien accompagné par nos autres actionnaires, nos autres investisseurs.
Ça, quoi, il y a des petits coups de pression entre fonds pour dire, bon, les gars, vous déconnez.
Bah, ils ont dit, vous déconnez. Si vous faites ça, plus jamais vous referez de tour, vous ferez plus,
vous ferez plus
de deal sur la place, quoi. Parce que là, vous êtes en train de vous cramer bêtement. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit.
Oui.
Quand on est mal accompagné.
Donc, il n'y a pas eu besoin de céder.
Non. Là, cette fois-ci, il n'y a pas eu besoin de céder.
Et tu parlais d'autres entrepreneurs que tu connais. On aime bien qu'on partage des coulisses, encore une fois, sans nommer, mais c'est toujours intéressant pour les auditeurs de se projeter dans « Tiens, et ça peut arriver, donc comment je me back ?»
Non, mais j'ai vu tout et n'importe quoi. Alors, ça n'arrive plus à partir d'un certain stade de croissance. Hein. C'est généralement sur
les premiers tours,
le early stage que c'est... qu'on trouve vraiment de tout, des BA, des business angels, ou des petits fonds dont on ne sait pas forcément le métier, ou parfois qui ne comprennent pas la tech. Et je pense que c'est pareil, ça c'est un sujet que j'ai pu voir régulièrement.
Et qu'on minimise
dans
parfois.
Des boîtes, ouais. Ouais, dans des boîtes que j'ai accompagnées, où ils font rentrer des industriels, des gens, des CEO de boîtes industrielles, qui ont très bien marché, mais qui ont marché avec un modèle industriel, en tête et qui ne comprennent pas forcément toujours le modèle d'une start-up avec une croissance rapide, avec pas forcément une recherche de la rentabilité
à très court terme,
dès le premier jour.
Sûr, ouais.
Et ça crée souvent des tensions très fortes parce qu'il y a juste une incompréhension complète du modèle. Et pareil, c'est pas un jugement, le modèle industriel fonctionne très bien, le modèle bootstrappé est un très très beau modèle, mais c'est toujours pareil, c'est le choix de comment bien s'entourer. Bah, quand on s'entoure bien, on essaie d'aller s'entourer de gens qui vont comprendre et votre business, mais aussi votre modèle et la manière dont vous voulez y arriver.
TBA ?
À mes heures perdues. Mais non, j'ai très très peu d'investissement.
Je voulais parler des sujets RH. Tu as beaucoup parlé de l'importance des talents, alors en France, mais pas que. Il y a des rituels à Kenéo.
Des rituels à Kenéo.
On en a tous, mais.
Ouais, il y en a plein. Le premier qui me vient en tête, c'est. Je pense pas que ce soit ultra spécifique à Kenéo, mais ça fait partie des idées idiotes qu'on a au tout début, qui ne scale pas. On pense que ça n'a pas scalé, finalement, ça scale quand même. Nous, la première année d'Akeneo, on était tous en remote. Moi, j'étais à Paris. Le reste de l'équipe était à Nantes. On a eu des bureaux très tard. Et donc, ça a été un peu compliqué les premiers mois de créer,
de créer l'équipe. Vraiment,
surtout qu'on bossait sur un sujet. Tu vois, le PIM, ce n'est pas un sujet qui est évident, qui est instinctif. Quand on n'a pas été dans les pompes d'un marketeur au sein d'une marque, c'est difficile de comprendre à quoi ça sert et ce qu'on fait. Donc, quand on est un développeur, un jeune développeur, comprendre et se prendre de passion pour ce sujet-là, ça va pas de soi. Donc, on a eu des premiers mois un peu compliqués. Et donc, on s'est dit, cet été, on loue une baraque au bord de la mer et on part tous ensemble une semaine et on bosse. On fait notre semaine de travail habituelle. Mais plutôt que de la faire chez soi ou au bureau, et ben on va la faire tous ensemble
dans un cadre sympa pour le soir.
On sera au bord de la plage et ce sera super. Et donc, ce qui était une idée ponctuelle pour résoudre un problème précis du moment,
c'est devenu
un rituel. Donc, d'année en année, on fait « Ah, bah tiens, on y retourne. »
Toujours au même endroit ?
Ben non, parce que...
Parce que la maison est plus petite, elle est trop petite.
La maison, elle n'a pas tenu la deuxième, ça ne marchait plus. Donc voilà, au début, on était 7, la deuxième, on était 12, après 35, après voilà. Et là,
vous êtes combien aujourd'hui ?
Là, on est un peu moins de 400, on est 380, et là, c'est celle qu'on fait en octobre, parce que du coup,
il fait un peu plus froid, là.
Il fait un peu plus froid, mais ça nous oblige d'aller un peu plus loin, ça nous oblige d'aller un peu plus bas. Là, on sera à 350. Et donc, on se demande toujours comment ça prend l'échelle, ce type d'initiative, parce que... La base était, on se faisait à manger nous-mêmes, on vivait notre vie.
C'est plus possible.
Évidemment, à 350, ça ne marche pas. Ça devient beaucoup très multiculturel, nous. Et la moitié des effectifs sont en dehors de France, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre.
Mais tout le monde vient.
Mais c'est à la fois un super moment, parce que justement, ça rassemble tout le monde. On se retrouve tous ensemble. Et c'est hyper important. C'est pas une semaine. Ce qu'on a changé, c'est que ce n'est pas une semaine de travail. Cette semaine-là, maintenant, ce n'est pas une semaine de travail. On fait des activités ensemble. Ce n'est pas juste on va à la plage et on boit des bières. Hein. Mais il y a des activités, un peu de team building, mais il n'y a pas de « allez, on va travailler sur la stratégie et la vision produit des 3 prochaines années ». C'est vraiment un moment où on apprend
à se connaître.
Parce que,
qui fait quoi ?
Parce que voilà, 350 personnes... Il y a eu 2 ans de Covid, donc on ne se connaît pas, en fait. Il y a plein de gens qui se connaissent pas, donc c'est le moment vraiment d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est un des rituels d'Akeneo.
Tu as des associés.
On est 3, oui.
3 associés. Ouais. Vous avez vos propres rituels.
Entre nous ?
Oui.
Oui, on se parle tous les matins. Tous les matins, on a un créneau d'une demi-heure où on se parle. Et parfois, c'est juste pour se parler de notre journée de la veille ou se parler de trucs qui n'ont strictement rien à voir avec le boulot. Mais c'est un rituel qui est hérité du Covid. Au moment du premier confinement, on s'est dit comment on fait ? Parce que là, tout le monde est parti en remote. Comment on fait pour recréer le lien ?
Tous sur le même fuseau horaire ?
En ce moment, on est tous... Alors, moi, ça dépend. Moi, je suis la moitié de mon temps aux États-Unis. Donc, je fais 2 semaines par mois à Boston.
Le matin, ça pique, du coup.
Donc, le matin, ça pique. Mais le reste du temps, ça marche. Et en fait, c'est parti du premier confinement où on s'est dit, comme on ne peut plus voir les équipes au bureau, on a fait un truc qui s'appelle le Good Morning Akeneo, où tous les matins, on se faisait un mini podcast avec beaucoup moins de matériel, beaucoup moins de moyens, mais où on se contraignait chacun, pendant une demi-heure, on enregistrait puis on diffusait auprès des équipes, à raconter un truc de positif qui s'était passé la veille. Donc, qu'est-ce qui avait éclairé notre journée de la veille ? Parce qu'on sentait qu'on rentrait dans un moment qui était un peu
anxiogène,
difficile. Et on s'est dit, même pour nous, c'est hyper important de se discipliner et de se forcer à aller chercher le positif dans tout ça. Et c'est de ce petit rituel, après, quand le confinement s'est terminé, on a arrêté de faire le Good Morning Akeneo, ce qui est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs, mais par contre, on a continué à travailler tous les matins. Ouais, exactement.
Je repense souvent, et d'ailleurs j'en parle souvent à ce micro, mais des associés d'Open Classroom qui, eux, se réunissent, je crois, tous les 6 mois à la montagne, avec cette idée que quand on peut voir l'horizon réel, on voit un meilleur horizon pour sa boîte. C'est des moments que vous décidez de prendre aussi, où ça n'a jusque-là pas été nécessaire pour les grands enjeux, grandes orientations.
Nous, on le fait une fois par an. Okay. Une fois par an, on se réunit tous les trois, généralement on va à Noirmoutier. Et on se dit, OK, de quoi on a envie là, maintenant, parce qu'on est toujours obligé de se recaler. Jusqu'à présent, on a toujours eu la même envie de continuer.
Mais c'est bien de leur challenger
chaque
année.
Mais c'est bien de se re-challenger, ouais. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes envies,
les mêmes vies.
Et donc, tous les ans, on se réaligne. On se dit, bon, bah voilà. Et surtout quand il y a des levées... Avant la levée, on l'a fait. Avant de dire on part et on lève 130 millions, on s'est dit, est-ce qu'on a envie de lever 130 millions ? Parce que lever 130 millions, ça veut dire qu'on
repart
sur 5 ans, ça veut dire qu'on se redonne un enjeu sur 5 ans. Alors qu'on arrivait à un moment où très bien, on aurait très bien pu dire, bon, bah voilà, c'est la boîte grandit.
Ou un qui veut sortir et qui puisse le faire. Ouais.
Donc, tous les ans, on se force à le faire.
Il y a des moments où... Sans dire qui ou toi, mais où ce moment était décisif pour la boîte ou pour l'un des associés.
Je saurais pas parler pour les autres, mais moi, ça a toujours été important. Pour moi, Akeneo, ça a toujours été une aventure collective. Donc, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Je serais bien incapable de dire comment je réagirais si demain un de mes associés me dit
« J'aimerais bien partir. »
Moi, j'aimerais bien partir. Parce que c'est toujours une aventure qu'on a construite, qu'on a vécue à trois. Donc,
avec les montagnes russes qui forgent aussi pas mal de choses.
Exactement. Alors, on a tous eu des moments durs, tu vois.
Je pense que dire le contraire.
Je pense qu'il faut arrêter de vendre le rêve de l'entrepreneur. C'est dur. Et ça attaque profond, quoi. Ça attaque vraiment dans des trucs qu'on croyait parfois solidement ancrés et qui ne le sont pas tant que ça. Donc, on a tous eu des coups de mou. Et à chaque fois, il y en avait deux des trois qui rattrapaient les autres. Et jusqu'à présent, ça a bien marché comme ça.
On parlait RH. Alors, je ne sais pas si c'est issu de quelqu'un de l'interne ou d'un de vous trois. Mais en fait, chez Akeneo, il y a une mascotte qui a son propre site. Ça a été décliné en cahier de coloriage. Je me suis un peu renseigné. Une hydre, un dragon,
C'est une hydre.
Une hydre, pardon, j'ai parlé de dragon. Je ne suis pas ultra spécialisé en la matière. J'en ai jamais rencontré en vrai, du coup.
J'aurais dû te ramener. Oui, c'est notre hydre qui s'appelle Ziggy. Et elle vient... C'est marrant, parce que les trois fondateurs d'Akeneo, on est tous ingénieurs. Donc on est tous développeurs dans l'âme. Donc on est assez geek. Akeneo, c'est une boîte avec un ADN assez tech et assez geek. Et notre premier site web, la grande bannière de fond, c'était Julia, qui est notre persona, qui est notre avatar, avec un bouclier et une épée qui se défendait contre une immense hydre qui représentait le multicanal. Il y avait une tête pour le mobile, une tête pour le e-commerce, une tête pour le catalogue papier, qui est un truc qui faisait un peu peur. Et nous, on dit, il ne faut pas avoir peur, Akeneo va vous aider à vous défendre face au défi du multicanal. Et rétrospectivement, cette image-là, elle était ultra geek. C'était une hydre vraiment qui faisait peur, très monstre, très donjon et dragon, quoi.
Allez, lancer de dés.
Exact. C'est exactement ça. Mais pourtant, on l'aimait bien. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, mais est-ce qu'on sert vraiment le propos qu'on veut en mettant cette hydre qui fait peur? On veut pas que ça fasse peur, en fait, le multicanal. Et donc, on s'est dit, non, on va complètement renverser le truc. On va garder l'hydre, parce que l'image était sympa, c'était original, et on aimait bien l'idée des trois têtes et pour le multicanal. Mais on va en faire un truc extrêmement mignon. On va faire un truc un peu kawaii, un peu cute, quoi. On en fait une peluche, quoi. Vraiment, on a fait une peluche avec...
Vous l'avez fait faire mignonne.
Ouais, on l'a fait faire, et elle est distribuée sur tous les salons. C'est un truc où on reçoit de notre communauté des photos d'Iggy partout dans le monde, des photos d'Iggy...
J'ai vu sur Twitter.
Bouffé par des chiens, beaucoup aussi.
peluche de bébé et
peluche
tout.
Peluche de bébé aussi, beaucoup, également. Mais c'est devenu... Je pense que maintenant, Akeneo, je pense que les gens ne voient pas forcément le logo d'Akeneo. Tu demandes à un membre de la communauté d'Akeneo, dessine-moi le logo. Je ne suis pas sûr qu'ils savent le faire. Par contre, Ziggy devient instinctivement le symbole d'Akeneo.
Parce que là, je suis devant le site. Hein, le logo Akeneo, c'est quoi? C'est la...
C'est une Akene. C'est censée être une graine qui s'envole. Bon, c'est très symbolique. Hein,
moi, je voyais une queue de baleine. Okay. Et où il manque le reste de la baleine.
Ah oui,
mais
ça marche aussi.
Ça marche aussi. Hein.
Ça marche aussi.
En tout cas, c'est joli. ok, et du coup, ça crée aussi, j'imagine, pas mal de proximité avec un certain nombre de clients, de développeurs.
Énormément. On reçoit des... On a des clients qui nous ont envoyé des... Parce que les clients nous demandent des Ziggy, donc on leur envoie. Je me souviens d'un de nos clients, Le Galet, je ne sais pas si je peux les citer, qui ont filmé l'ouverture de leur colis. Et ils ont fait ça comme un unboxing YouTube, où elles étaient complètement déchaînées. C'était hyper drôle. Donc on a plein d'aventures. Les gens nous racontent des aventures avec leurs Ziggy et tout ça. Donc c'est devenu vraiment, vraiment une mascotte, quoi. Donc c'est très chouette.
Je te propose, parce que les hydres à trois têtes, c'est soit dans un passé très lointain qu'on n'a pas connu, soit peut-être un futur qui dépasse les séries Netflix. Donc je te propose de plonger dans le futur. On part dans le monde de demain. I have a dream. On aime bien se plonger dans ce que sera, alors vous êtes le next 40, ça veut dire qu'on imagine forcément, au moins avec un petit coup d'avance, où est-ce que la boîte va et potentiellement aussi où va le monde, avec ce qui est très lié à son business, mais pas que.
Oui, je pense que pour nous, il y a un truc qui est vraiment hyper important. C'est là où on parle du multivers, c'est ça?
Mais de ce qu'on veut. non, je sais que tu voulais parler du métavers.
Du métavers, pardon, pas du multivers, c'est autre chose, ça. Du métavers, oui, pardon. J'ai bugué.
Pas de problème.
Le métavers, je crois qu'on entend beaucoup, beaucoup parler du métavers en ce moment. On voit Meta qui fait des investissements absolument pharaoniques pour essayer d'en faire une réalité. Et moi, ça me terrifie un peu, pour tout dire. Ça me terrifie pour deux raisons. La raison numéro un, c'est que je me dis qu'en fait, on n'apprend pas tellement des erreurs de notre passé, parce que le métavers, ça n'a rien de nouveau. On essaye de nous vendre ça comme un truc absolument révolutionnaire et qui va changer le monde, mais on a déjà tenté ça, je pense que...
Je parle de Second Life.
Ça n'apporte rien de plus que ce que Second Life essaie d'apporter. Oui, la technologie a évolué, que c'est plus immersif.
Oui, voilà.
Maintenant, il y a la réalité virtuelle. Mais le fond ne change pas. Et donc, je ne suis pas Nostradamus, donc je ne peux pas prétendre savoir comment ça va évoluer. Mais globalement, quand je vois un certain nombre de nos clients qui s'engouffrent là-dedans, comme ils se sont engouffrés dans Second Life à l'époque où Second Life, c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour les marques, ça n'a jamais rapporté un euro, parce que finalement, le seul intérêt potentiel qu'on pourrait trouver pour le métavers, c'est un intérêt ludique. Et donc, si j'y vais, c'est pour me couper du monde réel, pas pour le retrouver, transposé dans cet univers-là. Et donc, j'ai l'impression que c'est une immense perte d'argent pour pas mal d'annonceurs qui pensent surfer sur une vague qui n'existe pas. C'est une énorme perte d'argent pour les gens de Meta, c'est une énorme perte d'argent pour beaucoup de monde, parce que je ne suis pas sûr que concrètement ça réponde à un besoin réel. Et si ça répond à un besoin réel, c'est le deuxième truc qui me terrifie, c'est de me dire, mais...
C'est ça la vie qu'on veut, quoi.
C'est ça la vie qu'on veut. Et c'est extrêmement cynique de se dire, mais ça veut dire qu'on croit vraiment que notre monde à nous est tellement foutu qu'en fait, maintenant, la seule alternative viable, c'est d'aller dans un monde virtuel, quoi. Parce que le monde réel, de toute façon, il est cassé, quoi.
Il n'y a plus de problème climatique, d'électricité. Exactement. Dans le métavers.
Exactement. Bah non, bien sûr, ouais. Que non, ouais. Sauf que, bon, on les aggrave un peu. Et je trouve ça, oui, hyper cynique. Je trouve ça hyper cynique de la part d'un acteur comme Meta de se dire, pouf, tout cet argent qu'il pourrait mettre au service d'autres choses, peut-être un peu plus importantes, que juste essayer de... Ouais, je sais pas, je trouve ça cynique. De se dire, bon, bah, le monde est... Notre monde actuel est foutu, donc on va en recréer un autre virtuel. Est-ce que c'est vraiment ça, la meilleure chose qu'on a à faire avec autant d'argent et de technologie, quoi?
Avant même de se projeter dans le monde du métaverse, les réseaux sociaux ont eu aussi pas mal d'incidence sur nos vies quotidiennes, en positif mais aussi en négatif.
Ouais, les réseaux sociaux ont aussi, comme tu le dis, ont aussi bien autant de côtés positifs que négatifs. Je pense qu'ils ont eu ça a contribué à rapprocher quand même des gens. Ça a rapproché des communautés. Ça a permis de rendre visible un certain nombre de sujets. Donc l'accès, ça rend l'accès à l'information. Alors après, quelle information et quelle qualité comment d'information,
ouais.
C'est un autre sujet. Mais le fondement de base des réseaux sociaux, il est sain. En tout cas, tel qu'il existe sur un Twitter ou, je ne vais pas juger de TikTok et Instagram, mais il y a un vrai bénéfice de l'accès à l'information. Avec des dérives qu'on peut regretter.
Je reviens sur le métavers. On pourrait imaginer que pour une boîte comme la vôtre, il y aurait des débouchés potentiels pour proposer justement à tous vos clients qui sont prêts à mettre des budgets pour aller s'engouffrer dans le métavers. Vous n'y allez pas.
Non, non, on nous le demande régulièrement, ouais. Bien sûr, parce que nous, notre métier de base, c'est de faire en sorte que les produits de nos clients soient visibles
partout. Donc, ça pourrait aller partout.
Donc, dont dans le métavers.
Mais vous n'y croyez pas forcément.
Donc, non, aujourd'hui, ouais. Jusqu'à présent, moi, je résiste.
Okay.
Je résiste parce que je pense que ce n'est pas un bon... On a aussi un devoir de conseil, ouais. Un devoir d'accompagnement. Et puis...
Vous pourriez très bien le faire tout en prévenant que vous n'y croyez pas.
Oui, mais ça, c'est un petit peu...
Non, il n'y aurait pas le risque, j'essaye de projeter un peu, mais certains clients passent sur une techno concurrente qui leur proposerait aussi l'accès de leurs produits partout.
Le risque, ouais. Il existe toujours, ça, c'est ouais. Certain. C'est un très bon point. Je crois qu'aujourd'hui, on ne prend pas un risque énorme à dire non. Voilà.
Moi, je ne prends pas un risque énorme. En tout cas, j'espère en te donnant la parole et la casquette de président.
Parce que c'est notre projet !
Oui, alors, de manière générale, moi, je considère qu'il faut garder la politique et le monde de l'entrepreneuriat le plus éloigné possible. Je pense que c'est très, très compliqué de faire de la politique, c'est très, très compliqué de faire de l'entrepreneuriat.
C'est une mise en contexte qui appelle un mais. Mais.
Mais. Mais. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut agir assez facilement, c'est l'apprentissage du code à l'école. Je sais que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, mais qui est pour moi extrêmement important, parce que la programmation informatique, c'est un langage. Ça s'appelle un langage informatique, c'est le vrai mot, et c'est un langage, et de la même manière qu'on apprend l'anglais...
Un peu trop tard,
ouais. On apprend la programmation beaucoup trop tard. Et apprendre la programmation, ça ne veut pas dire former nos enfants à devenir des développeurs, c'est juste que ça donne un mode de pensée, l'algorithmie, c'est une structuration de la pensée qui permet de réfléchir à des problèmes d'une manière extrêmement différente. Et ça ouvre... Un éventail de possibilités énorme. Alors,
applicable dans plein d'autres
applicable
sujets.
Applicable dans plein d'autres sujets. La science, les maths, la médecine, partout. Et ça ne résonnera peut-être pas avec tous les enfants, parce que tous les enfants ne sont pas câblés et structurés de la même manière.
Mais ça éveillera peut-être
mais
de nouvelles
éveillera
connexions.
Mais ça éveillera des connexions. Et à un moment où on parle aussi beaucoup de comment on féminise les professions techniques, d'y commencer très tôt, dès le plus jeune âge, à donner des cours d'algorithmie dès les premières années, je pense que ça contribuera aussi fortement à apporter un peu de diversité dans ces métiers de l'informatique.
Mais écoute, on en avait déjà parlé à ce micro, mais je pense qu'un peu de répétition ne fait pas de mal. Je te propose qu'on se quitte pour cette première partie pour se retrouver dans la seconde qui t'est consacrée.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.